Pierre de Coubertin s'interrogeait au début des années 1920, est-ce que les Jeux Olympiques vont devenir une foire ou un temple? Donc il y a des beaux textes là-dessus, hein, si ça intéresse. Mais bon, avec Isabelle, on a déjà échangé, hein, sur la dimension ecclésiale en lien avec Pierre de Coubertin, mais avec la Cato, on aborde aussi cet aspect. Ce que j'ai retenu de ces 3 jours, c'est peut-être deux pistes, à savoir que le sport peut être le marchepied d'une éducation intégrale. Et de ce que j'ai retenu de ce qu'a dit Rosset lors de sa conférence, c'est que la foi peut être au service du sport. Et j'ai tendance à utiliser dans d'autres contextes, à côté de la notion de fair play, d'utiliser la notion de face play, hein, traduction de foi en face, hein, c'est-à-dire de
Face.
face, ouais, avec mon accent en breton, hein, c'est. Et de considérer que dans face place, vous avez la notion de foi, mais aussi la notion de jeu. Hein, savoir que la langue anglaise distingue le play et le game. Donc, je retiens Holy Games, mais j'ai aussi tendance à utiliser le mot play de temps en temps, hein, pour faire ce qu'il nous plaît, mais également pour accéder à une joie intérieure, hein, qui est procurée par cette dimension du jeu, hein, qui est. Alors, je vais citer ce qu'a dit Mgr Marcel, je vais le récupérer. Hein, donc, vous me direz si c'est. Je pense qu'à travers ce congrès, on se doit d'assumer la précarité et la pauvreté sportive. Parce que je retiens bien évidemment l'accompagnement spirituel du haut niveau. Sauf que, et Philippe Gonigam nous l'a rappelé le premier jour, c'est que en ce moment, il y a 5000 athlètes en France qui postulent pour faire partie des JO. Il va y en avoir les 500 ou 600. C'est-à-dire que l'accompagnement spirituel de l'Église, c'est peut-être aussi ne pas oublier ceux et celles qui vont rester sur le bord du chemin. Bien évidemment, il faut continuer avec les athlètes de haut niveau, mais de considérer que sur le bord du chemin, on va avoir des athlètes qui vont être déçus, qui vont quelque part avoir des moments peut-être délicats. Et donc, de voir comment on peut faire ce lien entre le haut niveau et puis peut-être effectivement la richesse de la précarité et de la pauvreté. Non, bon, c'est une piste que je retiens. Autre élément sur l'aumônerie du village olympique. Donc l'aumônerie du village olympique, c'est dans le cahier des charges du CIO. Et la mairie de Paris a signé cette charte. Et donc, je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais elle vous remercie infiniment de lui donner un coup de main parce qu'elle ne savait pas trop comment se dépatouiller avec ça. Alors, même si ça passe par le ministère de l'Intérieur. Mais. Et donc, on peut considérer que Holy Games a, on va dire, un poids politique qui est en train de s'installer. Alors, pas la politique, j'appellerais politicienne, mais c'est-à-dire d'entrer dans le paysage politique, et je pense que c'est une bonne nouvelle, et que ça renforce l'idée qu'après 2024, il y a peut-être quelque chose à pérenniser. Ce que j'ai retenu aussi par rapport à Olivier, c'est que le COJOP devient un soutien pour les Games. Alors Isabelle nous a donné l'exemple, hein, de par exemple Tony Estanguet ou quelqu'un d'autre de dire vous ne parlez pas des Jeux Olympiques, par contre tout ce qui est journaliste, vous n'hésitez pas à leur faire parler des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que cette évolution à 1 an est remarquable, c'est-à-dire que le COJOP s'aperçoit que finalement ce que met en place Holy Games, c'est pas quelque chose contre, mais c'est quelque chose qui va leur permettre de, alors excusez-moi peut-être de la formule, de leur retirer une épine du pied. Puisqu'on a parlé de la couronne d'épines, là je parle de l'épine du pied, hein, et que finalement il y a une mission, je sais pas si on peut parler comme ça, une mission de service public, hein, que Holy Games est en train de jouer. On peut considérer que le CIO est aussi un soutien pour Holy Games. C'est-à-dire Thomas Barr, on l'avait rencontré en septembre 2022 au Vatican. Donc voilà, donc Thomas Barr, et puis dans d'autres régions du monde, les aspects ecclésiales font partie de son discours et de ses perspectives. Autre piste que je vous renvoie, c'est la question, alors moi que je nomme de cette façon-là, c'est la formation continue des aumôniers du sport. Je ne parle pas de formation initiale, parce que je considère que, en tant qu'aumônier catholique, il existe des compétences transversales, hein, qui permettent peut-être de compléter par des formations continues, et peut-être il va s'agir d'identifier des compétences transversales, et je pense que on va pouvoir identifier des lieux de formation en Europe qui existent déjà. On va peut-être pouvoir échanger avec les cinq cathos, hein, qui ont aussi des compétences. Pour échanger, on va pouvoir échanger aussi avec le Vatican sur. Alors je formule la question, si Alain tu veux la traduire, c'est est-ce que le Vatican se sent en capacité d'accompagner la formation des aumôniers sportifs catholiques en France? Donc en lien avec la conférence des évêques de France, hein, je squeeze pas les institutions. Autre point, alors là je me tourne vers Kevin, mais c'est donc au niveau des Jeux Olympiques, il est beaucoup question d'héritage. Et je pense que nous ici, on est peut-être aussi concernés par la notion d'héritage. Alors, je suis toujours fâché avec la langue anglaise, hein, entre heritage et legacy. Bon, peu importe, mais en tout cas de voir, mais bon, vous y avez déjà répondu, c'est voilà, quel va être l'héritage de ces JO, et peut-être par rapport à nous qui sommes ici présents, puis par rapport à tout ce que vous faites sur l'Île-de-France, c'est voilà, quel héritage va permettre à Holy Games de devenir une marque alors transférable donc au niveau du CIO, parce que je pense que le CIO va quelque part se dire bah, il y a quand même un savoir-faire qui existe. Hein, et je pense que quand Thomas Barr dit j'aimerais que ça se passe et que ça se passe, ça fait partie en termes de diplomatie hein, de quelque chose de. Voilà, donc cette question de l'héritage. Autre perspective que je vous propose, donc Monseigneur Marcet, tout le monde a lu durant les 3 jours la nuit hein, ce document. Et il se trouve qu'il y a trois partenaires, trois logos. La Conférence des évêques de France, Luxel, la FSCF. Donc merci à la FSCF d'avoir activement participé. Merci à Luxel d'avoir activement participé. Mais en tout cas, pour moi, c'est là, il y a un enjeu aussi qui est important. C'est comment rendre visible une double appartenance féconde. Je crois que j'ai entendu ce mot fécond ce matin, je le récupère. Donc une double appartenance féconde, pourquoi? Parce que la FSCF et Luxel font partie du Comité national olympique et sportif français. Donc ils sont à la fois partenaires hein, avec nos réseaux ici, mais en même temps, quelquefois avec difficulté, ils font partie du monde, hein, du monde olympique. Et donc c'est de voir avec FSCF, Luxel, comment ça peut se développer, d'autant plus que depuis le mois de septembre, nous avons un nouveau président du Comité national olympique et sportif français, que l'Église connaît indirectement, qui s'appelle David Lapartient, qui est président du conseil départemental du Morbihan, qui est président de l'UCI, l'Union cycliste internationale, qui a accueilli il y a quelques années l'équipe cycliste du Vatican. Donc il y a toujours des liens qui se font, qui est le monsieur e-sport au niveau du CIO. Et si vous voulez en savoir plus, donc il y a une interview sur RCF hein, de David Lapartient qui date du 7 juillet 2023. Mais ce que je veux dire, c'est que David Lapartient ne va pas s'afficher publiquement par rapport à ses références catholiques. Mais je pense qu'il y a de nombreux prêtres aux côtés de la Bretagne ou du côté de Poitiers. Je pense que le père Bertrand l'a connu.
Chevilly.
Oui, je pense qu'il l'a connu. Et qu'en tout cas, ça peut être l'occasion comme ça
Le
de.
président de quoi, lui?
Alors, il est président du Comité national olympique et sportif français.
L'Union cycliste
Il est président de l'Union cycliste internationale.
Il est membre du CIO.
Membre du CIO par rapport au thème du e-sport.
Voilà, c'est ça.
C'est là. Donc, le hasard fait hein, qu'effectivement, ce président a énormément de casquettes, mais il a aussi, je pense, des relations fortes. Donc à voir, peut-être avec le père Bertrand sur ces possibilités. Alors c'est en lisant ce document hein, où effectivement les deux fédérations affinitaires hein, sont présentes, donc le comité olympique, hein, quelque part, Voilà, pour montrer que le monde est petit, hein, que les relations, hein, et que, en tout cas, je conclurai là-dessus, c'est que je conclurai pas autre chose, mais de considérer que finalement, les Jeux Olympiques 2024 sont un bon catalyseur, hein, de quelque chose, hein, qui permet de, hein, finalement, de favoriser des initiatives qu'on n'aurait peut-être pas prises si les JO n'avaient pas eu lieu, mais en même temps de considérer que les JO ne sont qu'un tremplin. Peut-être pour d'autres perspectives, parce que tout ce qui va se mettre en place par rapport à 2024, bon, ça me renvoie à l'idée que Isabelle Crudeau, par exemple, faisait partie de la pastorale de l'aumônerie en 1992 à
C'est là qu'elle
Albertville.
s'est convertie, pareil.
Voilà, c'est ça. Et donc de rappeler que les derniers Jeux d'hiver, qu'à 92, il y a énormément de personnes qui se sont rencontrées à cette occasion, et il reste un esprit qui sont liés à ces JO d'Albertville, et donc Isabelle est un bon exemple. De finalement cet héritage et puis cette. Et donc on peut considérer que tout ce qui va être mis en place sur Paris et ailleurs vont rassembler des personnes, vont permettre à des personnes de se connaître, et puis il va en rester quelque chose. Donc comment le... Et puis, bon, c'est aussi peut-être des perspectives, rappeler que les notions d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, de réalité virtuelle, de l'homme et de la femme augmentée, sont des éléments qui vont interpeller le CIO et qui vont interpeller le CIO dans les dimensions éthiques. Et derrière ces dimensions éthiques, là, je pense que nos collègues du Vatican vont être aussi intéressés et la conférence des évêques de France également intéressée. Voilà, Pascal, j'ai.
Merci beaucoup Gilles pour cette synthèse et cette conclusion du congrès. Alors, cette journée sur le programme était intitulée Demain, alors je pensais aussi à après-demain. Donc Gilles évoquait peut-être un congrès européen de la pastorale du sport à Metz. Moi, j'aurais tendance à proposer qu'on puisse le faire en 2025 et puis se donner rendez-vous pour un cinquième congrès national de la pastorale du sport en octobre 2027.